Ottawa, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du jeudi 12 mai 2016. Au sommaire ce soir.
En Ouganda, Yoweri Museveni a prêté serment et envoie en prison son principal concurrent.
L'ANS fait du renseignement, mais remplace lorsque besoin est le procureur, le douanier et souvent le juge.
Voilà, vous venez de l'entendre, au Tchad, l'Agence nationale de sécurité est accusée par un groupe d'opposants de participer à la répression du peuple tchadien.
Dissolution du gouvernement Guinée-Bissau, le pays s'enfonce à nouveau dans la crise.
Au Brésil, Dilma Rousseff appelle à la résistance contre ce qu'elle qualifie de coup d'État. Elle a été suspendue en attendant un autre vote du Sénat sur l'avenir de son mandat.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Explosion au Nigeria, au moins deux policiers ont été tués par un kamikaze de Boko Haram qui s'est fait sauter à l'entrée d'un bâtiment officiel de Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est du pays. Tel est le bilan donné par l'armée. Les djihadistes parlent de 15 morts. Boko Haram a revendiqué l'attaque au nom du groupe État islamique dans la province d'Afrique de l'Ouest. Attentat qui intervient alors que doit s'ouvrir samedi un sommet consacré à la lutte contre les islamistes.
Dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, 37 personnes ont été arrêtées cette semaine pour leur implication présumée dans les récentes violences intercommunautaires qui ont coûté la vie à une trentaine de civils. C'est ce que rapporte l'AFP citant des sources de sécurité malienne.
Le Burkina Faso envisage de retirer son contingent de 850 hommes au Darfour. Ouagadougou entend ainsi concentrer ses efforts sur la menace terroriste sur son propre sol, a fait savoir le général Pingré Noma Zagré.
Le président français François Hollande sera demain en Centrafrique. Il ne passera que quelques heures à Bangui. La France prépare le retrait de la force Sangaris en RCA. Elle entend ensuite soutenir la reconstruction du pays. Paris, qui s'est également exprimé sur les élections en République démocratique du Congo, la France demande aux autorités de préparer de bonne foi les scrutins. Il faut dire qu'hier, la Cour constitutionnelle de Kinshasa a autorisé le président Joseph Kabila à rester en fonction si la présidentielle prévue en 2016 n'a pas lieu.
RDC toujours, l'armée a libéré un journaliste qu'elle avait arrêté pour diffusion de fausses informations. Eboko Amani, travaillant pour une radio émettant dans l'est du pays, a été détenu pendant 2 jours. Il ne fait l'objet cependant d'aucune poursuite.
En Ouganda, le président Yoweri Museveni a prêté serment aujourd'hui, après avoir été réélu en février pour un cinquième mandat de 5 ans. Le président soudanais Omar el-Béchir, recherché par la Cour pénale internationale, était présent. Maïli Segel.
5 années de plus à la présidence de l'Ouganda pour Yoweri Museveni, alors que son opposant historique Kizza Besigye est en prison après avoir procédé hier à une prestation de serment pour contester le résultat de la présidentielle du 18 février. Ce scrutin s'était déroulé, selon des observateurs internationaux, dans une atmosphère d'intimidation de la part du régime. Une situation que l'on a retrouvée ce jeudi à Kampala. L'accès aux réseaux sociaux a été bloqué par le gouvernement pour des raisons dites de sécurité. 21 coups de canon et une parade aérienne d'avions de chasse ont accompagné la prestation du nouveau mandat de Yoweri Museveni en présence de nombreux chefs d'État africains, dont Omar el-Béchir, qui est recherché par la Cour pénale internationale, ce qui a valu à l'Ouganda des critiques d'organisation des défenses de droits de l'homme.
Le président bissau-guinéen José Mario Vaz a mis fin au gouvernement de Carlos Correa ce jeudi 12 mai. La Guinée-Bissau est pour l'instant sans gouvernement. On fait le point avec Noah Mankali.
La démission du gouvernement de Carlos Correa a été rendue publique dans un décret lu par le porte-parole de la présidence de la République, Fernando Mendonça. La Guinée-Bissau voit ainsi s'approfondir la crise politique qui avait commencé depuis la démission en août dernier du premier ministre d'alors et président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert PSGC, Domingo Simões Pereira. Carlos Correa, depuis sa nomination comme premier ministre de la Guinée-Bissau en août dernier, jusqu'à nos jours, n'a pas pu présenter son programme de gouvernance. Le PAGC se réunit en ce moment pour réagir à la démission du gouvernement de Carlos Correa et son président Domingos Simões Pereira prétend devenir le futur chef du gouvernement. Nouaman Kalibissao, VOA Afrique.
Le colonel Azali Assoumani, ex-putschiste, a été élu nouveau président des Comores aujourd'hui à l'issue d'une élection présidentielle partielle aux allures de troisième tour, où il a accentué son avance acquise au deuxième tour sur son principal rival, le candidat du pouvoir sortant, Mamadou. Les précisions de John Lyndon.
C'est par 2271 voix contre 1308 à son rival que le colonel Assoumani l'a emporté selon des résultats provisoires donnés par Najaye Alaoui, la vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante. Le deuxième tour de la présidentielle le 10 avril avait été émaillé de plusieurs actes de violence, dont la destruction d'urnes, essentiellement à Anjouan, l'une des trois îles de l'Union des Comores. La Cour constitutionnelle avait alors ordonné l'organisation d'une partielle qui s'est tenue hier dans 13 bureaux à Anjouan. Les résultats provisoires de cette partielle qui devront s'ajouter aux premiers résultats d'avril, selon Mme Alaoui, permettent donc à Azali Assoumani de revenir au pouvoir. Il était arrivé en tête au deuxième tour. Le colonel Assoumani avait déjà occupé la présidence de 1999 à 2006 à l'issue d'un coup d'État.
Tchad, la France appelle les autorités tchadiennes à faire toute la lumière sur les disparitions présumées de militaires suite à la présidentielle du 10 avril. Scrutin remporté par Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 26 ans.
Lutte contre Al-Shabaab en Somalie. Des forces spéciales américaines ont affronté les rebelles djihadistes aux côtés de la force de l'Union africaine. C'est ce qu'a indiqué un responsable américain de la défense. 5 combattants Shabaab ont ainsi été tués dans le sud du pays, à l'ouest de Mogadiscio.
Environ 32 millions de personnes sont en état d'insécurité alimentaire en Afrique australe en raison d'une grave sécheresse qui frappe la région depuis près de 2 ans. Tels sont les chiffres du PAM, Programme Alimentaire Mondial.
Et Libye, l'organisation État islamique, a pris le contrôle d'Abu Ghraib, localité stratégique dans l'ouest du pays, a indiqué un responsable à l'AFP. C'est la première fois que le groupe ultra-radical sunnite réussit à étendre son contrôle à un secteur à l'ouest de Sirte.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Brésil, Dilma Rousseff, dont le mandat de présidente a été suspendu temporairement, appelle les Brésiliens à se mobiliser contre ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel. C'est sa première déclaration après le vote historique du Sénat. Idriss Fall.
Aux Brésiliens qui s'opposent au coup d'État, qu'ils soient de n'importe quel parti, je lance un appel. Maintenez-vous mobilisés, unis et dans la paix. La lutte pour la démocratie n'a pas de date finale. C'est une lutte qui exige qu'on s'y consacre à permanence, a lancé Dilma Rousseff, ajoutant qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir lutter une nouvelle fois contre un coup d'État. Dilma Rousseff a survécu la torture sous la dictature de 1964 à 1985. Elle a été la première femme élue à la tête du Brésil en 2010. Elle est suspendue de ses fonctions pour 6 mois maximum, le temps que les sénateurs se prononcent de manière définitive sur son cas. Temer dehors ont lancé ses partisans massés devant la présidence en référence au vice-président Michel Temer qui a pris ses fonctions intérimaires et doit nommer un nouveau gouvernement. Monsieur Temer, 75 ans, ancien allié, est devenu l'adversaire de Madame Rousseff lorsque son parti centriste a quitté la coalition gouvernementale à la fin mars.
La justice belge a prolongé aujourd'hui la détention de 6 hommes inculpés dans l'enquête sur les attentats du 22 mars à Bruxelles. Parmi eux, Mohamed Abrini, un Belge d'origine marocaine qui avait reconnu le 9 avril, au lendemain de son arrestation, être le 3e homme accompagnant les 2 kamikazes de l'aéroport. Comme son ami d'enfance Salah Abdeslam, suspect clé des attentats de Paris, ayant fait 130 morts, arrêté à Bruxelles le 18 mars et transféré de Belgique en France le 27 avril. Mohamed Abrini intéresse aussi la justice française dans le cadre de l'enquête sur ces attaques également revendiquées par l'organisation État islamique.
La crise au Yémen a fait de nouvelles victimes. Au moins 15 soldats ont été tués ce jeudi dans 3 attentats suicides attribués à des djihadistes dans le sud-est du pays. Ces attentats font suite à une vaste offensive pour chasser Al-Qaïda et Daesh dans des régions du sud du Yémen. Ces groupes djihadistes ont profité de la guerre civile opposant les rebelles chiites houthis aux forces gouvernementales pour étendre leur influence. Par ailleurs, le Pentagone a confirmé le déploiement d'un très petit nombre de soldats américains sur le terrain au Yémen, le premier du genre depuis le départ en mars 2015 des dernières troupes américaines du pays.
Le candidat probable du Parti républicain à la présidentielle américaine du 8 novembre a rencontré le président de la Chambre des représentants dans le cadre d'un effort visant à unifier le parti avant la campagne contre Hillary Clinton. Donald Trump et Paul Ryan ont affiché un certain optimisme après la réunion tenue ce matin au local du Congrès. Je crois que nous sommes en train de jeter les bases de notre unification, mais c'est un processus qui prendra du temps, a dit le député Ryan. Donald Trump s'est également entretenu avec le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, et le président national du Parti républicain. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. La Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Le Niger, l'un des pays les plus pauvres au monde, devrait rebondir à 5,2% en 2016, après un fort repli à 3,5% en 2015, dû à des baisses de production agricole, pétrolière et minière. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le FMI, après une mission du 25 avril au 9 mai à Niamey. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, a réalisé au terme de l'exercice 2015 un bénéfice de 49,440 milliards de francs CFA, a appris aujourd'hui l'agence APA auprès de cet institut d'émission à Dakar. Ce résultat s'établissait à 31,278 milliards de francs CFA en 2014, soit une forte progression de 58%. Pour réussir sa révolution numérique, l'Afrique doit d'abord améliorer l'accès de sa population à l'électricité, ont jugé des participants du Davos pour l'Afrique, forum économique, qui se déroule depuis mercredi à Kigali, au Rwanda. Plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, ont rappelé certains participants à ce 26e forum économique mondial pour l'Afrique. Environ 32 millions de personnes sont en état d'insécurité alimentaire en Afrique australe en raison de la grave sécheresse qui frappe la région depuis près de 2 ans, a indiqué aujourd'hui le Programme alimentaire mondial. Selon le PAM, les niveaux des réservoirs sont plus bas que l'an dernier à la même période. Et comme beaucoup de pays dépendent de l'eau pour leur production d'électricité, il faut s'attendre à des coupures de courant et à des pénuries d'eau.
Et l'on passe tout de suite à la page sport avec John Linden. Salut John.
Bonjour Gabi.
En football, la FIFA va suspendre la Fédération béninoise de football.
C'est avec effet immédiat. La FIFA a en effet motivé sa sanction par l'annulation du congrès électif de la Fédération béninoise de football. Celui-ci devait se tenir le 4 mai dernier, mais il n'a pas pu avoir lieu en raison, souligne la FIFA, de l'injonction prononcée à son égard par un tribunal local et qui empêche la tenue d'une élection par peur de troubles à l'ordre public. La décision doit toutefois être confirmée demain par le congrès de la FIFA, qui pourrait tout simplement mettre un terme au rêve des écureuils pour la CAN 2017.
Football toujours, mondial 2018, la Russie n'est pas en retard.
Oui, c'est ce qu'a affirmé hier le président du comité d'organisation du mondial 2018, dont le coup d'envoi sera donné le 14 juin 2018. Malgré son optimisme, le patron du mondial russe a cependant admis des problèmes techniques concernant les stades de Samara et de Kaliningrad.
Et on reste en football pour parler du stade omnisport de Bafoussam qui reçoit l'onction de la CAF.
C'est Ismaël Pierre Bidoumpad, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui l'a annoncé hier dans un communiqué. Une annonce qui intervient après la visite effectuée du 27 avril au 1er mai dernier par l'émissaire de la CAF, Souleymane Magazouba. Écoutons la réaction d'Emmanuel Nzété, délégué de la communauté urbaine de Bafoussam.
Et à propos du stade omnisport que la CAF vient d'inaugurer et de préciser que c'est très sérieux, je vous dis tout de suite que c'est un bel ensemble architectural conçu et réalisé selon les règles de l'art pour développer le sport dans la ville de Bafoussam et pour nous permettre de bâtir certaines infrastructures, habitations, marchés, écoles, tout autour de ce stade qui est construit dans une zone où tout peut encore se réaliser et se développer.
Emmanuel Nzété, communauté urbaine de Bafoussam. Parlons basket, John Linden, mon équipe, les San Antonio Spurs, au bord du gouffre.
Tout à fait, les San Antonio doivent impérativement s'imposer aujourd'hui à Oklahoma City et dimanche de retour à San Antonio sous peine de conclure leur fantastique saison 2015-2016 prématurément et sur une amère désillusion.
Merci John Linden.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Gabidorcil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, N'Djamena.
Les candidats malheureux à l'élection présidentielle du 10 avril dernier au Tchad s'en prennent à l'ANS, l'Agence nationale de sécurité. Au cours d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, ses opposants qualifient de ce service de bras armé mis en place par le pouvoir pour réprimer le peuple tchadien. On fait le point avec André Kodmadjingar.
Ces candidats malheureux imputent la responsabilité des arrestations et intimidations dont sont victimes leurs militants au lendemain de l'élection présidentielle à l'ANS, Agence nationale de sécurité. Son omniprésence et son rôle principal dans la répression et certaines de ses actions relèvent, selon l'opposition, de la pire mafia.
L'ANS fait du renseignement, mais remplace lorsque besoin est le procureur, le douanier et souvent le juge. Il était temps que l'on s'intéressât à l'ANS pour défendre nos libertés et la démocratie dans notre pays.
Gali Katangote, président de l'UFDR, Union des Forces Démocratiques, Parti Républicain. Le dernier acte posé par l'ANS qui a occasionné cette sortie médiatique, selon lui, est la manifestation des élèves de Léré et de Tchikem, deux départements situés au sud du Tchad, le 5 mai 2016, date à laquelle l'opposition démocratique avait appelé à la journée ville morte pour protester contre les résultats définitifs de cette élection proclamée par le Conseil constitutionnel.
À Tchikem, les élèves auraient descendu un vieux drapeau dans leur cour, dont la partie rouge du tricolore aurait presque disparu. Ils auraient dit, je cite, « Le changement commencera par le drapeau de notre école ». Par cette blague, quelques élèves et deux professeurs ont été arrêtés par l'ANS sous le fallacieux prétexte, je cite, offense au drapeau national.
Pour Saleh Kebzabo, chef de file de l'opposition, l'ANS est le bras armé du pouvoir qui n'est pas différent de la DDS, direction de la documentation et de la sécurité sous le régime de l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré.
L'ANS est l'héritière de la DDS. L'ANS qui aujourd'hui est devenue principalement le bras armé du pouvoir et c'est celui qui régente tout, même dans les affaires politiques, de politique politicienne ou politique pure, vous allez retrouver l'ANS. Est-ce qu'il faut arrêter un citoyen illégalement, l'ANS est là pour le faire. Est-ce qu'il faut tuer ? Là aussi, je pense que l'ANS n'est pas absente. Pourquoi l'ANS a-t-elle pris tant d'importance sous le régime de Idriss Déby ?
Kali Katangote demande à la population de réunir les preuves des actes posés par les agents de l'ANS pour en constituer des banques de données.
L'ANS, agissant hors cadre légal, est illégal et illégitime. C'est pourquoi nous en appelons à tous les citoyens à constituer des banques de données sur les agents, leurs crimes et délits. Ces dossiers serviront à la constitution des plaintes pour que les disparus, les handicapés et les morts ne restent pas impunis, comme ce fut le cas de la DDS.
André Kodmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Une année après la destruction de 5 radios indépendantes et d'une télévision, le pluralisme médiatique au Burundi a pris un coup, sérieux coup. Connu pour être un des pays d'Afrique où la liberté de la presse était citée comme exemple, le Burundi a vu une centaine de journalistes quitter le pays ou forcés de vivre dans la clandestinité. Aujourd'hui, le ministère de la Justice a permis l'ouverture de 2 radios. Une indépendante et l'autre proche du pouvoir. Par ailleurs, le Conseil national de la communication affirme travailler pour que les journalistes puissent rentrer au pays et promet l'ouverture des autres radios fermées. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
En l'espace de quelques heures, les 13 et 14 mai 2015, 5 radios et une télévision sont réduites au silence. Leurs locaux et matériels de transmission sont détruits. Les journalistes sont confondus avec les putschistes qui venaient de rater leur coup d'État. Menacés, une centaine de journalistes sont contraints à l'exil. Même ceux qui restent au pays vivent dans la peur. Difficile alors pour les journalistes de faire des reportages, de prendre des photos ou de filmer. 12 mois après, la radio Isanganiro et la radio-télévision Rema FM, proches du parti présidentiel, ont réouvert leurs portes, mais les problèmes subsiste, comme le note le nouveau directeur de la radio Isanganiro, Samson Maniradukunda.
Il y avait d'abord le problème lié au manque de matériel parce que tout le matériel a été détruit. On devrait passer aux réparations, chose que nous avons fait. On a connu le problème lié aux ressources humaines, mais les moyens financiers ne le permettaient pas aussi. Actuellement, la seule contrainte que nous avons, c'est la contrainte financière.
Certains journalistes ont pris le chemin de l'exil, mais d'autres sont restés dans la capitale. Mais leur vie au quotidien devient difficile, comme le reconnaît Jean de Dieu Senguiyumva, jadis rédacteur en chef de la radio-télévision Renaissance.
Honnêtement parlant, nos médias libres et indépendants ont été détruits, ont été réduits, volontairement réduits au silence. On a été contraints au chômage, on a été dans une situation d'insécurité comme celle que nous vivons actuellement. On a même peur d'exhiber la carte de presse. On vit dans une situation extrêmement difficile. C'est à peine qu'on parvient à payer des loyers, qu'on parvient à payer la scolarité de nos enfants, qu'on parvient même à avoir quelque chose à mettre sous la dent.
De nombreux journalistes attendent que les autorités judiciaires burundaises clôturent leur dossier pour venir reprendre leur métier. Et le nouveau président du Conseil national de la communication, Ramadhani Karenga, promet qu'il continue à faire une plaidoirie auprès des instances judiciaires.
J'ai eu l'occasion à Bruxelles, il y a quelques semaines, de rencontrer les responsables de ces organes de presse à qui j'ai promis de continuer de travailler en collaboration avec l'autorité judiciaire pour qu'elle puisse analyser avec diligence et urgence les cas de certains journalistes poursuivis ou de certains organes de presse qui sont dans la coupole de la justice.
En mars dernier, les représentants des médias travaillant au pays ou en dehors du Burundi, le président du Conseil national de la communication et les opérateurs internationaux d'API Media se sont rencontrés à Bruxelles pour renouer le dialogue. Le président du Conseil national de la communication a déclaré qu'il reste optimiste, tandis que les directeurs des radios privées en exil relativisent au vu de la situation prévalant au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix d'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Au Brésil, ce qui était de plus en plus prévisible ces derniers jours est finalement arrivé. Le Sénat a voté la suspension des pouvoirs présidentiels de Dilma Rousseff, la première femme à diriger le géant sud-américain. Dans la foulée, la chef de l'État, en passe d'être destituée, a crié au coup d'État constitutionnel. Elle n'est accusée ni de corruption ni d'abus de pouvoir, mais plutôt d'avoir maquillé les données sur l'économie avant sa réélection. Les sénateurs se donnent un maximum de 6 mois pour se prononcer définitivement sur son cas. Le vice-président Michel Temer assure l'intérim. Pour autant, le Brésil reste profondément divisé. Il risque à la recueillir la réaction d'un Brésilien, Ismaël Fagundes.
C'est un coup d'État parce que le gouvernement de Dilma, c'est un gouvernement social. Ça, c'est un problème pour l'élite brésilienne parce que le gouvernement de Dilma a avancé beaucoup de programmes sociaux. C'est un problème pour l'élite brésilienne. Elle ne supportait pas que les personnes avancent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment des personnes pauvres qui avaient l'opportunité d'entrer à l'université, trouver du travail, d'avoir une maison et d'un bon salaire. Et ça, c'est un problème.
Et pourquoi c'est un problème? Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on l'accuse de corruption, on dit qu'elle a cassé des choses dans les fonds publics.
Alors, la corruption dans le Brésil, elle existe à longtemps. Ce n'est pas le gouvernement de Dilma qui a créé la corruption. La corruption, elle existe au Brésil à 30 ans, à 50 ans, à 100 ans. En elle existe la corruption du Brésil. Mais le gouvernement de Dilma, c'est un gouvernement ouvert. Il avait la chance d'y vérifier, mais la corruption, elle n'existe pas sans le gouvernement Lula. Le gouvernement de Fernando Henrique, Dilma. Le gouvernement de Fernando Henrique, il avait la corruption, mais le gouvernement de Lula et Dilma qui a commencé à vérifier, qui est ouvert, et ouvert l'abertude pour la justice, vérifier la question de la corruption.
Donc vous pensez que c'est le retour de la droite brésilienne, alors?
Bien sûr. Moi, j'espère que se passe, que Dilma elle passe ce moment tranquillement et qu'elle trouve son poste. Mais on avait peur que la droite brésilienne, que l'élite brésilienne, plus fort, parce qu'ils vont couper toutes les avances sociales, l'avance de la médecine, les Cubains qui viennent travailler, qui travaillent au Brésil, ils vont couper ça, les universités, la cote pour les Noirs, toutes les choses qui sont sociales, ils vont couper, ils vont bloquer ça.
Et que pensez-vous de Cunha qui dirige le Parlement?
Cunha, il avait cinq preuves qui a montré qu'il avait des comptes à les banques à l'étranger, qu'il gagnait de l'argent sous la Pelé à Rio de Janeiro. Et c'est une personne qui avançait les projets de impeachment à Dilma, mais qui a fait beaucoup de corruption. C'est pas possible qu'une personne comme lui s'occupe d'un projet de impeachment d'un président s'il avait beaucoup de problèmes avec la corruption. La politique du Brésil, la vive moment triche. C'est un match de foot. Il y a deux matchs, deux teams. Il y a le team de la droite, il y a le team de la gauche, il y a le team de l'élite, il y a le team de preuves. C'est triste la politique brésilienne. Il n'y a pas la démocratie. La présidente Dilma, elle a gagné avec la démocratie et elle va perdre son poste, les coupes d'État.
Ismaël Fagundes, un Brésilien de Rio de Janeiro.
Sommet anticorruption dans la capitale britannique, Londres. Au moins une cinquantaine de pays, aux côtés du FMI et de la Banque mondiale, se penchent sur de nouvelles actions à mener. En ouvrant le sommet, le Premier ministre britannique David Cameron a comparé la corruption à un cancer qui a longtemps constitué un tabou international. Les ONG et militants anticorruption attendent surtout des mesures concrètes, un mois après les révélations des Panama Papers, qui ont mis au jour l'utilisation à grande échelle de sociétés offshore permettant de placer des actifs dans des territoires opaques. Pour réaction, Eric Maniraquiza a joint à Paris le vice-président de Transparency International France, Jacques Théré.
D'abord, un bon élan donné à la communication sur la corruption. Pour une fois, les gouvernements font des déclarations très fermes pour combattre la corruption. C'est déjà un point. En dehors de cela, nous avons été un peu déçus par les résultats, en ce sens que les trous noirs de la corruption, que sont par exemple les Overseas Territories anglais et les quelques États non coopératifs aux États-Unis, comme le Nevada ou surtout les deux ou trois États les plus opaques. Rien n'a été changé, semble-t-il, en ce qui les concerne.
Vous êtes satisfait de l'élan, mais l'engagement du genre n'est pas le premier. Qu'est-ce qui a manqué réellement?
Il manquait un engagement pour les registres de bénéficiaires effectifs, de beneficial owners. Ce que nous attendions, c'était que les Overseas Territories anglais acceptent de faire des registres et que les États américains défaillants le fasse aussi. Or ça, il n'y a pas d'annonce de ce côté-là.
Justement, selon vous, quelles sont les actions concrètes qui peuvent réellement éradiquer la corruption dans le monde?
En ce moment, on essaye de monter un réseau international convaincant de qui sont les véritables bénéficiaires des sociétés écrans et des trusts qui ouvrent des comptes dans les grands pays. Pour l'instant, il y a une opacité là-dessus. C'est cette opacité qu'il faut réduire.
Et quel est le continent le plus corrompu aujourd'hui?
Ce n'est pas tellement une matière de continent, parce qu'il y a des fraudeurs dans tous les pays. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, souvent petits, mais pas toujours, qui ferment les yeux sur l'origine de l'argent qui arrive chez eux. Je pense notamment au Panama, je pense aux îles Caïmans, je pense aux îles Vierges britanniques, mais je pense aussi à la place de Londres, aux places internationales comme Hong Kong ou même New York.
Ce sommet de Londres, est-ce que c'est un sommet qui constitue une avancée majeure dans la lutte contre la corruption?
Non, ce n'est pas une avancée majeure, c'est une promesse d'avancée. Il faut encore que la promesse soit tenue, et que pour que la promesse soit tenue, il faut qu'il y ait des gens, des organismes, des gouvernements qui vérifient que les promesses sont tenues.
Jacques Théré, vice-président de Transparency International France à Paris.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci Joselle Morissin à la mise en onde, à la console notre ami Bainom, présentation Morgane Guiriac et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde. Aujourd'hui, on maintient la conversation sur Facebook. Très bonne soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.